Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Une grande partie de nos activités quotidiennes consiste à parler et à communiquer avec les autres.
Mais que dit la Bible au sujet de la communication et de l'usage de la langue?
Nous le découvrirons lors de cette série de discussions que nous commençons aujourd'hui. Yann est en compagnie de notre invité Étienne et je leur cède tout de suite la parole.
Bonjour Étienne et merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Alors, que dit la Bible au sujet de la communication? Par où voulez-vous commencer?
Dieu nous a créés avec cette formidable capacité de parler. La possibilité de communiquer les uns avec les autres est un cadeau merveilleux. En fait, nous apprenons dès les premières lignes de la Bible que Dieu lui aussi parle. En Genèse, chapitre 1, l'Éternel, pour créer l'univers et tout ce qu'il renferme, a prononcé quelques paroles et la vie a pris forme. Puis, Dieu annonça que tout ce qu'il venait de créer était bon. Ainsi, Dieu parle pour créer de bonnes choses, il parle pour faire le bien. Et enfin, nous apprenons que Dieu créa l'homme et la femme à son image.
Qu'est-ce que cela signifie et quelle en est sa pertinence pour notre sujet?
Cela signifie que les hommes et les femmes ressemblent à Dieu.
Cela m'apparaît incroyable, mais comment est-il possible?
Bien sûr, les hommes ne sont pas eux-mêmes des dieux, même si parfois ils voudraient se comporter comme tels, non. Dans bien des domaines, nous restons infiniment inférieurs à Dieu. Dieu peut accomplir infiniment plus de choses que nous, êtres humains, ne pouvons réaliser. Par sa nature, Dieu est en effet bien différent. Mais, dans sa bonté, Dieu a accordé aux hommes certaines qualités qui reflètent les siennes. La possibilité de parler en est une. J'ai commencé en disant que Dieu parle. Or, nous le savons, les hommes et les femmes parlent aussi. Dieu communique, il se révèle, il se fait connaître par sa parole. Or, les hommes et les femmes, eux aussi, ont cette merveilleuse capacité de s'exprimer par la parole. Quel don merveilleux de Dieu! Et en ceci, nous lui ressemblons.
Et tout comme Dieu parle pour accomplir le bien, il nous a donné, me semble-t-il, cette même capacité pour que nous aussi, nous nous en servions pour faire le bien.
Oui, vous avez raison, Yann. Et pourtant, trop souvent, nous faisons le mal, car nous utilisons ce beau cadeau de Dieu pour en faire un mauvais usage.
Selon la Bible, quelle fut la première personne qui a utilisé, à des mauvaises fins, cette merveilleuse capacité que nous avons de communiquer?
En Genèse, au chapitre 3, nous découvrons le serpent. Il s'agit d'un mauvais esprit appelé Satan qui a pris la forme d'un animal. Ce serpent, ou Satan, a utilisé la parole pour inciter Adam et Ève à désobéir à Dieu. Le mal qu'il voulait accomplir était de briser la relation qui existait entre Dieu et les hommes. Or, malheureusement, il a bien réussi. Toutefois, pour parvenir à ses fins, Satan a choisi des paroles rusées, mensongères et séduisantes. Il a semé le doute dans l'esprit de l'homme et il a attisé sa convoitise. Peu de temps après avoir écouté Satan, Adam et Ève ont eux aussi commencé à utiliser la parole à de mauvaises fins, car ils se mirent à se blâmer l'un l'autre et à s'accuser mutuellement, puisqu'aucun d'eux n'admettait ses propres fautes.
Nous pouvons donc, selon les mots que nous choisissons, soit accomplir le bien, soit le mal. Mais quel est le but de cette série sur la communication?
Il est triste de constater à quel point de nos jours, les hommes parlent pour faire le mal, ou pour dissimuler le mal. Or, cet état de choses ne reflète pas les desseins de Dieu pour l'homme, ni sa volonté dans sa vie. Aussi, tout au long de cette série, nous allons d'une part identifier et dénoncer les mauvais usages de la langue et d'autre part encourager une communication bonne et saine dans le but d'accomplir le bien. Toutefois, avant d'aller plus loin, je voudrais que notre lectrice nous lise un extrait de l'épître de Jacques qui aborde justement cette question. Il s'agit d'un avertissement en langage très imagé pour nous mettre en garde contre le pouvoir que nous avons de répandre le mal par le biais de nos paroles. Je cède donc la parole à Sandra pour la lecture de Jacques, chapitre 3, versets 2 à 12.
Chacun de nous commet des fautes de bien des manières. celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles, est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires, et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce.
Merci Sandra. Il est vrai que Jacques dépeint bien les ravages causés par les paroles méchantes.
C'est exact, Yann. Les paroles mal intentionnées ou méchantes peuvent entraîner des conséquences tout à fait inattendues et désastreuses. Car les paroles peuvent blesser. Elles sont capables de briser des relations humaines. Les paroles peuvent attiser des conflits et inciter à la violence. Les paroles peuvent induire en erreur ou amener certains à faire de mauvais choix. Alors, comme Jacques nous l'exhorte, il est important d'apprendre à maîtriser nos pensées et à dompter nos langues. Car en agissant ainsi, nous prouvons que nous parvenons à une certaine maturité.
Et notre désir le plus ardent est de parvenir à cette maturité et à maîtriser nos paroles. Nous avons appris aujourd'hui que Dieu nous a donné ce don merveilleux de pouvoir communiquer avec les autres, pour que nous nous en servions afin d'accomplir le bien. Toutefois, nous avons trop souvent destiné ce beau cadeau à un mauvais usage. Quel dommage! Mais Étienne, comment allez-vous aborder ce thème de la communication lors de nos prochaines émissions?
Nous examinerons ce que la Bible déclare au sujet de la communication. Nous verrons aussi que la langue peut être utilisée à de mauvaises fins, ce que nous devons à tout prix éviter, et nous comprendrons pourquoi. Nous parlerons également de l'impact positif des bonnes paroles sur notre entourage, du bien-être qu'elles procurent. Et à la fin de cette série, je l'espère, nous aborderons notre prochain avec plus de sagesse et de bonté.
Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique. Nous nous pencherons sur la première épître de Jean. Sandra va nous lire au chapitre 1 les versets 5 à 10. Ensuite, elle cédera la parole à Claude, qui nous fera part de ses réflexions.
Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus son Fils a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous.
Merci Sandra, et bonjour à tous. L'apôtre Jean nous annonce une nouvelle formidable. Il est possible de connaître Dieu et de marcher en communion avec lui. Une telle vie est merveilleuse. Toutefois, dans son texte, l'apôtre soulève deux attitudes qui prouve que l'on ne jouit pas forcément de cette communion, quoi que l'on puisse croire ou prétendre. La dernière fois, nous nous sommes penchés sur la première de ces deux attitudes négatives. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Et aujourd'hui, nous allons examiner la deuxième attitude. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Qui oserait affirmer n'avoir jamais commis de faute? Qui oserait croire qu'il n'est pas pécheur? La Bible déclare, au psaume 14, versets 2 à 4, « Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » De même, l'apôtre Paul déclare aux Romains, chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Vous voyez, il n'existe aucune exception, pas même une seule. Alors, si une personne prétend n'avoir jamais péché, elle se présente étant l'exception et affirme par là même que Dieu est menteur ou que la Bible se trompe. Quel orgueil! Or, l'orgueil est un péché. Pourquoi certains osent-ils croire être sans péché? Sûrement parce qu'ils n'ont jamais compris ce qu'est le péché. Croient-ils que le péché se limite à commettre de grands crimes, tels que le meurtre, ou le viol, ou l'adultère? La Bible le déclare. Le péché est enraciné dans notre nature et il s'exprime de bien des manières, en pensée, comme en parole et en acte, par des simples gestes, parfois égoïstes, de la vie de tous les jours, comme à travers les crimes les plus odieux. Si nous n'avons pas compris ce qu'est le péché, c'est parce que nous n'avons pas laissé la lumière de la vérité et de la justice de Dieu pénétrer nos pensées et nos cœurs. Si tel est notre cas, il est impossible de nous tourner vers Jésus pour obtenir son pardon et être purifié, puisque nous croyons ne pas en avoir besoin. Non, refusons une telle attitude qui nous séparerait de l'amour de Dieu pour nous. Tournons-nous vers Jésus. Acceptons sa lumière dans nos vies. Prosternons-nous devant lui. Adorons le roi sauveur, mort pour nos péchés.
Merci Claude pour cet enseignement important. Sans tarder davantage, nous devons vous dire au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.